ce qui semble le plus facile est souvent ce qui est le plus facile. Mais pas toujours, quand même. Implacable. Après avoir lu l'illisible, il est temps d'écouter l'inaudible. Volume 4. Bonjour, je suis Walter Proof. Vous écoutez l'Inaudible, le podcast de l'illisible. http://walterproof.free.fr/l'illisible Merci de nous rester fidèles. L'Inaudible, ça se mérite. Et vous le méritez. Voici donc pour vous le troisième volume de nos réflexions, pensées, récriminations et fulminations. Au sommaire, une problématique, la différence entre un pigeon, un questionnement du professeur Lao Te Tan, la rotonditude minérale a-t-elle une valeur métaphysique, un message métropolitain de notre ami Philibert Duclos, Lululalu, Ritiki et Rataplan chez les Iroquois, un peu de musique et quelques fulgurances. Alors ne bougez pas, et souvenez-vous, si vous ne cherchez rien, c'est bien ici que vous l'entendrez. Mettons tout de suite les choses au point. Il n'est pas question une seule seconde pour moi, mais quand je dis pas une seule seconde, c'est pas une seule seconde, de militer pour la résurrection des subterfuges d'autrefois ou le retour des simulacres du passé. Non, 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 j'ai pas dit ça. Point trop n'en fout. Mais tout de même, quand on y réfléchit bien, ne se dit-on pas qu'à tout prendre, il suffirait de presque rien, peut-être quelques années de moins, pour que la différence que nous faisons entre un pigeon, par exemple, ou un corbeau si vous préférez, pour que cette différence infinitésimale ne se réduise finalement à une simple équation binaire, ou à une simple fracture subliminale du genre résolument factice. Hein ? Quand même. Parce que fondamentalement, la différence n'est pas si irrémédiable que ça, hein ? En tout cas, pas au point de transformer votre psyché émotionnelle en une sorte de Guernica de banlieue, tout de même. Non, parce que si c'est ça, faut le dire tout de suite, hein, ça nous évitera de perdre du temps. Car comme l'a parfaitement expliqué Schopenhauer dans sa célèbre recette de la fricassée au pruneau, il y a loin de la coupe au bol. Non, ça c'est Jeanne d'Arc qui le disait. Ou Mireille Mathieu, peut-être, enfin. Ou alors Henri Tenon de la Mortaise dans le tome 12 de ses mémoires gymnopédiques, si mes souvenirs sont exacts. À moins que...
Votre attention, s'il vous plaît. En raison d'un accident grave de voyageur qui a vomi son déjeuner sur la voie, le trafic est totalement interrompu sur l'ensemble de la ligne 10 entre Boulogne-Pont-de-Saint-Cloud et gare d'Austerlitz. Je répète, en raison d'un accident grave de voyageur qui a vomi son déjeuner sur la voie, le trafic est totalement interrompu sur l'ensemble de la ligne 10 entre Boulogne, Pont-de-Saint-Cloud et gare d'Austerlitz. Veuillez vous excuser pour la gêne occasionnée et l'odeur.
Veuillez entendre à présent un questionnement du professeur Lao Te Tan. La rotonditude minérale a-t-elle une valeur métaphysique ? la rotonditude minérale a-t-elle une valeur métaphysique ? Il y a des questions comme ça qu'on voudrait être le premier à avoir posées. Ça tombe bien car je pense être dans ce cas de figure. Alors je vous le demande, la rotonditude minérale a-t-elle une valeur métaphysique ? Il y a fort longtemps, Marcel Einstein ne s'était pas posé cette question. C'est sans doute la raison pour laquelle il n'y avait pas répondu. Bien avant lui, elle n'était pas venue à l'idée de Zeb Newton non plus. Pas davantage que de Roger Descartes. Quant à Georges Pythagore, n'en parlons pas, ce mec qui était vraiment un blaireau, sans blague. Non, vraiment, il semble bien que je sois le seul à m'être interrogé sur cette délicate occurrence. Alors, une fois la question établie, et je me remercie de l'avoir posée, trois remarques s'imposent que nous allons tenter de développer ici. Premièrement, en quoi la rotonditude minérale nous interpelle-t-elle ? Deuxièmement, la valeur métaphysique est-elle métaphysiquement valable ? Et troisièmement, doit-on vraiment se farcir toutes ces conneries à une heure de grande écoute ? De ces trois remarques, une seule mérite vraiment une réponse, la troisième, et la réponse est non. La meilleure des précognitions reste ineffective par rapport à la masse des résurgences basiques qui en découlent, et c'est rien de le dire. Et quand Lulu l'a lu, elle le dit, et c'est la lue. Là, Lulu a lu les aventures de Rikiki et Rataplan chez les Iroquois. Elle a dans la foulée rencontré Edgar Seymour, l'auteur. Interview décontrastée. C'est inaudible, c'est sur l'inaudible.
Ça ne fait guère plus de 2 ans qu'Edgar Seymour est reconnu comme un des acteurs fondamentaux de la polystructuration intégrale contemporaine. Son apparition fulgurante dans ce milieu hétéromorphe et clandestin, avec un premier ouvrage intitulé « Précognition infantile et troubles mondains », a fait l'effet d'une bombe. Depuis, c'est en humble artisan qu'il construit son œuvre « brique à brique ». Edgar Seymour publie Les aventures de Rikiki et Rataplan chez les Iroquois, le volume 1 de la double tétralogie qu'il a baptisée Toxicologie de l'âme humaine, en hommage à Poupougne, sa chienne morte l'an dernier, écrasée par un piano à queue, chez Glutamate Associé. Edgar Seymour, bonjour.
Bonjour qui ?
Bonjour mon chien ?
Non, pas ça, pas le chien, non.
Pardon, je ne voulais pas. Médecin, vite ! C'est quoi le numéro des urgences ? Le 12 ?
Non, le 12, tu sors.
Alors le 4 ?
Non, je ne crois pas. Non, le 4 est le chiffre magique de la mythologie pachtoune, le symbole du karma dans la grande cosmologie prépubère des peuplades orques, aux crétinises assez supérieures, selon le classement de Mollusque 13 en tout cas. Mais le numéro des urgences, je ne crois pas.
Bon, alors écoutez, vous avez l'air d'aller beaucoup mieux quand même.
Ah oui, sans conteste.
Alors si nous poursuivions cette conversation ?
Très volontiers.
Edgar Seymour, vous publiez Rikiki et Rataplan chez les Iroquois, dans lequel on sent comme les prémices d'une œuvre fondamentale. Pourquoi ?
Voyez-vous, Lulu, je peux vous appeler Lulu ?
Non.
Tant pis. Voyez-vous, je suis à la poursuite d'une maîtrise complète des terminaisons nerveuses constituant la trame elle-même des sentiments confuciens qui habitent l'homme. Et ce roman en est en quelque sorte la contraction musculaire, un peu comme si toutes les voies qui aboutissent à la complétude de l'œuvre divergeaient à un moment donné, pour ne plus représenter qu'une seule matérialité dans le tout. Vous voyez ce que je veux dire ?
Pas du tout, mais c'est pas grave. Comment situez-vous Rikiki par rapport à Rataplan dans le contexte de cette déclinaison farouchement perplexe ? En gros, lequel est la chèvre et lequel est l'ours ?
Eh bien pour moi, Rikiki est un peu le summum de la concrétion millénaire de notre époque. Et par rapport à sa verticalité, Rataplan constitue le rempart, le bouclier invisible qui lui permet de prétendre à l'extrasensorialité sans laquelle il ne pourrait pas s'intégrer à son environnement proche.
Et donc, aux Iroquois ?
Oui, car les Iroquois interagissent, comme dans tout conflit spirituel, avec le complexe fort qui régit nos deux héros. C'est pourquoi quand Rikiki déclare à Rataplan « Eh bien, mon lapin, il était moins 5 », livre 2, chapitre 127, verset 13, il s'agit pour lui d'exorciser la platitude de ses relations extrasensorielles au monde, un peu comme s'il ne trouvait en Rataplan qu'un exutoire provisoire à toute cette minéralité qui l'encombre.
Oui, et quand Rataplan lui répond « Tu l'as dit bouffi », livre 3, chapitre 145, verset 21, qu'est-ce qu'il entend par là ?
Eh bien, vous savez, Rataplan n'entend pas grand-chose en général, c'est lui l'ours. Il est un peu le déversoir borgne de nos passions vitales, comme me le disait ma concierge l'autre jour.
Et les Iroquois dans tout ça?
Ah, les Iroquois, vous mettez le doigt sur un point majeur de la reconstitution intérieure que j'ai amorcé avec ce livre. Les Iroquois, vous savez, c'est comme la bouillabaisse. Quand elle est bleue, c'est pas de la bouillabaisse.
Comme c'est vrai, Edgar Seymour. Comme c'est vrai. Merci.
Merci qui?
Merci mon chien.
Ah non, pas ça, pas le chien.
Un peu de musique maintenant dans l'inaudible avec The Black Math Experiment, un groupe de Houston, Texas. Ils décrivent leur musique comme la sensation qu'on éprouve quand on se penche en arrière sur une chaise et qu'on tombe presque mais qu'on se rattrape juste à temps. The Black Math Experiment, One and One is One.
It's the end of days. For us, heaven, there was hell to make. And if you say, I never loved you your way, I did the best I could to the end of days. It's over now, it's the end of days. For a piece of heaven, there was hell to pay. It seems the things we've said can't be undone. It's true.
Intéressant calcul pour un groupe dont le nom veut dire en français l'expérience des maths noires. On trouve leur musique en tapotant http://www.theblackmathexperiment.com. Dans quelles limites intérieures la minéralité de l'existence est-elle liée à la purification des espèces? Faut voir. Soyez rassurés, ce quatrième volume de l'Inaudible est bel et bien terminé. Comme d'habitude, si vous avez adoré, ou si vous avez détesté, ou si vous vous en foutez complètement, laissez un commentaire avisé ou une métonymie abyssale sur le blog de l'Illisible, http://walterproof.free.fr/l'Illisible, ou sur le site de téléchargement de l'Inaudible, http://wproof.podemus.com. Je suis Walter Proof, manquerait plus que ça. Bonsoir, et à bientôt, peut-être. Thank you.